On va parler de la globalisation du genre avec Delphine Lacombe, qui est sociologue, et Elisabeth Marteux, qui est politiste, qui viennent de publier, puisqu'elles ont co-dirigé cet ouvrage, le bouquin « La globalisation du genre, mobilisation, cadre d'action, savoir ». Et puis, comme il se trouve que toutes les deux ont des terrains pour le moins tendus, en ce moment, on parlera aussi des répressions, des manifestations au Nicaragua et en Palestine, en fin d'émission.
Le cri des poètes, de ceux qui manifestent, celui des révoltés, le cri des troubles faits, le cri qui les dérange, celui qui les inquiète, celui qui les accuse, celui qui les conteste, le cri qui les empêchera de dormir, celui qui effacera leurs dédains et leurs sourires, le cri des nôtres, celui des anonymes, le cri du peuple, le cri des victimes, le cri strident pour briser le silence, le cri révolutionnaire pour bouger les consciences, le cri de colère des damnés de la terre, et celui des familles à qui ont perdu un frère.
Justicia de Sidi Ouattara, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Et effectivement, on a gardé nos invités du dossier du jour en plateau, puisqu'on va revenir avec elles sur, sur l'actualité de leur terrain d'étude. Il se trouve qu'on avait reçu au téléphone il y a quelques semaines un étudiant nicaraguayen qui nous avait parlé des répressions contre les manifestants. Alors c'était à la mi-avril, autour du 20, je pense qu'on l'avait au téléphone. Et depuis, la situation ne s'est pas améliorée au Nicaragua. Alors, est-ce que tu pourrais revenir, Delphine, avec nous un peu sur la situation aujourd'hui ?
Donc, Yali, là, je crois, la dernière fois, vous a parlé des événements autour du 19 avril. Donc, les événements du 19 avril, c'est plusieurs groupes de manifestants au Nicaragua qui se mobilisent contre la réforme de l'Institut de sécurité sociale qui était très défavorable aux cotisants. ils se mobilisent. Et là, ça n'était pas la première fois qu'on assistait à ce genre de mobilisation, ni à ce type d'intimidation, de répression et de violence, puisque des groupes de choc du Front Sandiniste de Libération Nationale, qui est au pouvoir actuellement au Nicaragua, ont réprimé cette manifestation. Il y a eu de très nombreux blessés. Depuis,
il y a eu des nombreux blessés, de nombreux morts aussi.
Et depuis, exactement, donc dans la foulée, très nombreux blessés à cette occasion-là. Ensuite, les étudiants se sont mobilisés, se sont retranchés 3 ou 4 jours après dans les universités publiques. Et là, la police anti-émeute et la police nationale ont tiré à balles réelles contre les étudiants. À ce jour, là, depuis 3 semaines, pratiquement un mois, que cette grave crise politique a éclaté, on est à pratiquement 70 morts, avec une très grande majorité de jeunes gens et d'étudiants. Donc la situation là, tout de suite, c'est qu'on est dans une contradiction totale, puisque d'un côté, Daniel Ortega, le président, et sa femme, la vice-présidente Rosario Murillo, ont accepté un dialogue. Et pendant qu'on parlait tout à l'heure de la globalisation du genre, ce dialogue-là avait lieu. C'était un événement majeur, parce que depuis 2006 que Daniel Ortega est au pouvoir, jamais les opposants s'étaient manifestés en face, lui disant que... il était en train, à l'époque, d'instaurer un État dictatorial et qu'aujourd'hui, en tout cas, il fallait qu'il cesse la répression contre les manifestants. Donc d'un côté, ce dialogue, qui en fait n'est pas un dialogue, hein, mais bon, voilà, a eu lieu aujourd'hui pendant qu'on parlait là, dans cette émission. Et de l'autre, la répression continue, puisque à Matagalpa, aujourd'hui, il y a eu des répressions de manifestants. Avant-hier, c'était à Masaya. Encore 2 jours avant, c'était à Nikinohomo. Donc on est dans un processus où, manifestement, la présidence bicéphale et le couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo...
La femme de Daniel Ortega est la vice-présidente.
Voilà, et ils essaient manifestement de gagner du temps, puisque la répression continue et le dialogue, selon eux, est ouvert.
Ce qui est assez étonnant au Nicaragua, c'est que la communauté internationale ne réagit pas du tout, en fait.
Alors, la Commission interaméricaine des droits humains est présente au Nicaragua maintenant pour enquêter, puisque Daniel Ortega a été sous la pression notamment de l'Église, qui s'est imposée en médiatrice. Daniel Ortega et Rosario Murillo ont été contraints d'accepter l'une de ces conditions à l'ouverture de ce dialogue national, c'était que la CIDH, la Commission interaméricaine des droits humains, puisse être présente. D'autres conditions étaient formulées par ces médiateurs, mais elles n'ont pas été respectées. En tout cas, là, la CIDH est là. Donc la communauté internationale sur le continent américain, si la CIDH, on considère que ça fait partie de la communauté internationale, là, ça bouge un peu. Mais c'est vrai que, contrairement à il y a 40 ans, 30 ans, le Nicaragua n'est plus dans la ligne de mire de l'actualité internationale. Et c'est devenu un pays totalement périphérique, alors qu'il y a 30, 40 ans, c'était le lieu de la révolution. Et c'était un lieu d'espoir pour beaucoup de gens. Et puis c'était un lieu de confrontation de la guerre froide.
Et quelles sont les prochaines échéances? Parce que là, il y a eu ce dialogue avec Ortega et l'opposition. Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que l'armée, ce qui est un fait très, très majeur, important, l'armée, le porte-parole des forces militaires, a déclaré que l'armée ne réprimerait en aucun cas les manifestants. Donc, du côté de l'armée, il peut se passer des choses. Après, on ne sait pas. Il y a plusieurs acteurs qui comptent là en ce moment. C'est l'Église. Donc l'Église, qu'on trouve ça formidable ou pas, l'Église, ça compte dans un pays comme le Nicaragua. Et là, l'Église a pris ses distances vis-à-vis de Daniel Ortega. Elle avait été divisée au cours des dernières mandatures de Daniel Ortega. Et l'acteur clé aussi, c'est le patronat et sa représentation au travers du Consejo Superior de la Empresa Privada, du Conseil supérieur de l'entreprise privée. Évidemment, tous les entrepreneurs ne sont pas exactement représentés par le COSEP, mais cette institution, le COSEP, le patronat. Et jusque-là, le patronat faisait alliance avec Daniel Ortega pour plein de raisons qui étaient favorables aux entrepreneurs, et notamment aux plus grands entrepreneurs. Les régimes fiscaux ont été très favorables au capital, comme on dirait. Et en fait, la suite dépend de l'Église, du patronat et des forces militaires, notamment.
Donc à suivre cette répression des manifestations et de voir ce qui va se passer au Nicaragua, où on sent que c'est un bouillonnement, mais assez incertain.
Pour l'instant, oui, c'est incertain, oui.
Alors, Elisabeth, tu travailles sur la Palestine, et ces derniers jours, il y a eu des manifestations qui ont été durement réprimées aussi. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit mot? Bon, c'est toujours terrible, j'ai l'impression que c'est de plus en plus terrible, mais...
Alors effectivement, il y a des manifestations lundi qui ont été réprimées à Gaza. En fait, ça s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la marche du retour, qui a commencé le 30 mars en Palestine pour commémorer le jour de la terre. C'était la date d'expropriation des Palestiniens arabes en Israël, le 30 mars, et ça devait se prolonger jusqu'à la Nakba, donc le 15 mai, qui est la catastrophe pour les Palestiniens et qui fait suite à la déclaration d'indépendance d'Israël le 14 mai. Donc on avait 46 jours de mobilisation. Effectivement, on a eu des manifestations tous les jours au bord de la frontière, ou disons de la barrière de séparation entre Gaza et Israël. Et ça s'est soldé lundi par une soixantaine de morts, donc on est déjà près de 90, plusieurs milliers de blessés, et surtout avec une armée israélienne qui tire à balles réelles et qui a aussi conduit des frappes contre des bases du Hamas à Gaza. Alors pourquoi ça a vraiment dégénéré lundi? Parce que c'est le jour donc de la déclaration d'indépendance d'Israël, et parce que ce même jour, on a l'administration américaine qui a inauguré le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Donc ils ont inauguré les nouveaux locaux à Jérusalem. Donc ça a jeté de l'huile sur le feu et tout a complètement dégénéré.
Et comme on a vu au Nicaragua, les militants et les manifestants étaient des très jeunes manifestants qui ont été tués.
Oui, alors effectivement, dans la mobilisation palestinienne, il y a toujours eu des jeunes, des enfants, des femmes qui étaient aussi en première ligne. Donc il n'y a rien de nouveau. C'est que les médias ont dit, tiens, le Hamas met en première ligne les femmes et les enfants. En réalité, ça a toujours été le cas. Dès les années 80, première intifada, on avait des femmes et des enfants qui manifestaient. Donc je pense qu'il est important de dire que même si le Hamas a mobilisé des gens, et c'est vrai, il y a des bus qui ont été affrétés pour les emmener dans les mosquées, les prêches étaient dirigés pour inciter les gens à aller manifester. De toute façon, il y a une misère, une frustration telle qu'il n'y avait pas besoin de mobiliser beaucoup pour que les gens se ruent contre le mur.
Ouais, parce que la situation à Gaza...
Enfin, contre la barrière.
Oui, la situation à Gaza est catastrophique.
Elle est catastrophique humanitairement, elle est catastrophique. Il y a plus de 40% de chômage, il y a les trois quarts de la population de Gaza qui dépend de l'aide internationale. Et voilà, donc il faut quand même rappeler que les trois quarts de la population sont des réfugiés palestiniens.
Et tout à l'heure, on disait que la communauté internationale n'avait pas fait grand-chose contre la répression au Nicaragua. Est-ce qu'il y a eu des réactions face à ce qui se passe en Palestine?
Alors, il y a une réaction qui est uniquement discursive ou déclaratoire de la part de la communauté internationale, que ce soit les Européens, l'ONU, les États arabes. Il n'y a rien. Il y a la Turquie qui a rappelé son représentant, l'Afrique du Sud également. Mais c'est tout, concrètement, dans les faits. Il n'y a rien. Et puis ça pose aussi la question de la justice internationale. Là, on parle de la CPI aujourd'hui. Il y a notamment un représentant de la Ligue arabe qui a appelé la CPI à enquêter. Mais bon, Israël a vraiment peu de chances, peu de risques et peu de choses à craindre.
La CPI, c'est la Cour pénale internationale.
Cour pénale internationale.
Bon, ben, c'est la petite conclusion de pas très rassurante ni très positive sur la répression des manifestants et des manifestations sur vos deux terrains de recherche. En tout cas, merci Delphine et merci Elisabeth d'être passées sur ce plateau. On va continuer
doucement,
mais sûrement l'émission.